deuxième partie, théorie de la consommation. Chapitre 1, la logique sociale de la consommation. L'idéologie égalitaire du bien-être. Tout le discours sur les besoins repose sur une anthropologie naïve, celle de la propension naturelle au bonheur. Le bonheur, inscrit en lettres de feu derrière la moindre publicité pour les canaries ou les selles de bain, c'est la référence absolue de la société de consommation. C'est proprement l'équivalent du salut. Mais quel est ce bonheur qui hante la civilisation moderne avec une telle force idéologique? Il faut réviser, là aussi, toute vision spontanée. La force idéologique de la notion de bonheur ne lui vient justement pas d'une propension naturelle de chaque individu à le réaliser pour lui-même. Il lui vient, socio-historiquement, du fait que le mythe du bonheur est celui qui recueille et incarne dans la société moderne le mythe de l'égalité. Toute la virulence politique et sociologique dont ce mythe est chargé depuis la révolution industrielle et les révolutions du XIXe siècle s'est transférée sur le bonheur. Le fait que le bonheur ait d'abord cette signification et cette fonction idéologique induit des conséquences importantes quant à son contenu. Pour être le véhicule du mythe égalitaire, il faut que le bonheur soit mesurable. Il faut que ce soit du bien-être mesurable par des objets et des signes du confort, comme disait Tocqueville, qui notait déjà cette tendance des sociétés démocratiques à toujours plus de bien-être, comme résorption des fatalités sociales et égalisation de tous les destins. Le bonheur comme jouissance totale ou intérieure, ce bonheur indépendant de signes qui pourraient le manifester aux yeux des autres et aux nôtres, ce bonheur qui n'a pas besoin de preuves est donc exclu d'emblée de l'idéal de consommation, où le bonheur est d'abord exigence d'égalité ou de distinction bien entendu, et doit en fonction de cela se signifier toujours au regard de critères visibles. Dans ce sens, le bonheur est plus loin encore de toute fête ou exaltation collective, puisque alimenté par une exigence égalitaire, il se fonde sur les principes individualistes, fortifié par la table des droits de l'homme et du citoyen qui reconnaissent explicitement à chacun, à chaque individu, le droit au bonheur. La révolution du bien-être est l'héritière, l'exécutrice testamentaire de la révolution bourgeoise ou simplement de toute révolution qui érige en principe l'égalité des hommes sans pouvoir ou sans vouloir la réaliser au fond. Le principe démocratique est transféré alors d'une égalité réelle des capacités, des responsabilités, des chances sociales, du bonheur, au sens plein du terme, à une réalité devant l'objet et autres signes évidents de la réussite sociale et du bonheur. C'est la démocratie du standing, la démocratie de la télévision, de la voiture et de la chaîne stéréo, démocratie apparemment concrète, mais tout aussi formelle, qui répond par-delà les contradictions et inégalités sociales à la démocratie formelle inscrite dans la Constitution. Toutes deux, l'une servant d'alibi à l'autre, se conjuguent en une idéologie démocratique globale qui masque la démocratie absente et l'égalité introuvable. La notion de besoin est solidaire de celle de bien-être dans la mystique de l'égalité. Les besoins décrivent un univers rassurant de faim, et cette anthropologie naturaliste fonde la promesse d'une égalité universelle. La thèse implicite est celle-ci. Tous les hommes sont égaux devant le besoin et devant le principe de satisfaction, car tous les hommes sont égaux devant la valeur d'usage des objets et des biens, alors qu'ils sont inégaux et divisés devant la valeur d'échange. Le besoin étant indexé sur la valeur d'usage, on a une relation d'utilité objective ou de finalité naturelle devant laquelle il n'y a plus d'inégalité sociale ou historique. Au niveau du beefsteak, valeur d'usage, pas de prolétaire ni de privilégié. Ainsi, les mythes complémentaires du bien-être et des besoins ont-ils une puissante fonction idéologique de résorption, d'effacement des déterminations objectives, sociales et historiques de l'inégalité. Tout le jeu politique du welfare state et de la société de consommation consiste à dépasser leurs contradictions en accroissant le volume des biens, dans la perspective d'une égalisation automatique par la quantité et d'un niveau d'équilibre final qui serait celui du bien-être total pour tous. Les sociétés communistes elles-mêmes parlent en termes d'équilibre, de besoins individuels ou sociaux naturels, harmonisés, dégagés de toute différenciation sociale ou connotation de classe. Là aussi décrivant d'une solution politique à une solution définitive par l'abondance, substituant l'égalité formelle des biens à la transparence sociale des échanges. Ainsi voit-on dans les pays socialistes aussi la révolution du bien-être, prendre la relève de la révolution sociale et politique. Si cette perspective sur l'idéologie du bien-être est juste, à savoir qu'elle véhicule le mythe de l'égalité formelle, sécularisée dans les biens et les signes, alors il est clair que l'éternel problème, la société de consommation est-elle égalitaire ou inégalitaire? Est-elle la démocratie réalisée ou en voie de réalisation? Ou à l'inverse, restitue-t-elle simplement les inégalités et les structures sociales antérieures? Est un faux problème. Qu'on arrive ou non à prouver que les virtualités consommatrices s'égalisent, écrasement des revenus, redistribution sociale, la même mode pour tous, les mêmes programmes à la télévision, tous ensemble au club Méditerranée, ceci ne veut rien dire, puisque poser le problème en termes d'égalisation consommatrice, c'est déjà substituer la quête des objets et des signes, niveau de substitution, aux véritables problèmes et à leur analyse logique et sociologique. Pour tout dire, analyser l'abondance, ce n'est pas aller la vérifier dans les chiffres, lesquels ne peuvent qu'être aussi mythiques que le mythe, c'est changer radicalement de plan et traverser le mythe de l'abondance par une autre logique que la sienne. L'analyse commence bien sûr qu'on fasse le constat de l'abondance par les chiffres, le bilan du bien-être. Mais les chiffres ne parlent pas d'eux-mêmes et ne se contredisent jamais. Seules les interprétations parlent, parfois à côté, parfois à l'encontre des chiffres. Laissons-leur la parole. La plus vivace, la plus obstinée, c'est la version idéaliste. La croissance, c'est l'abondance. L'abondance, c'est la démocratie. Devant l'impossibilité de conclure à l'imminence de ce bonheur total, même au niveau des chiffres, le mythe se fait plus réaliste. C'est la variante idéale réformiste. Les grandes inégalités de la première phase de la croissance s'amenuisent. Plus de loi d'airain, les revenus s'harmonisent. Bien sûr, l'hypothèse d'un progrès continu et régulier vers de plus en plus d'égalité est démentie par certains faits. L'autre Amérique, 20% de pauvres, etc. Mais ceci signale une dysfonction provisoire et une maladie infantile. La croissance, en même temps que certains effets inégalitaires, implique une démocratisation d'ensemble et à long terme. Ainsi, selon Galbraith, le problème de l'égalité-inégalité n'est plus à l'ordre du jour. Il était lié à celui de la richesse et de la pauvreté. Or, les nouvelles structures de la société affluente ont résorbé le problème, en dépit d'une redistribution inégale. Sont pauvres, les 20%, ceux qui restent, pour une raison ou pour une autre, hors du système industriel, hors croissance. Le principe de la croissance, lui, est sauf, il est homogène, et tend à homogénéiser tout le corps social. La question fondamentale qui se pose à ce niveau est celle de cette pauvreté. Pour les idéalistes de l'abondance, elle est résiduelle, elle sera résorbée par un surcroît de croissance. Pourtant, elle semble se perpétuer au fil des générations post-industrielles. Tous les efforts, aux USA en particulier, avec la Great Society, pour l'éliminer, semblent se heurter à quelques mécanismes du système qui la reproduirait fonctionnellement à chaque stade de l'évolution, comme une sorte de volant d'inertie de la croissance, comme une sorte de ressort indispensable à la richesse globale. Faut-il croire Galbraith quand il impute cette pauvreté résiduelle inexplicable aux dysfonctions du système, priorité aux dépenses militaires et inutiles, retard des services collectifs sur la consommation privée, etc. Ou faut-il inverser le raisonnement et penser que c'est la croissance dans son mouvement même qui se fonde sur le déséquilibre? Galbraith est là-dessus très contradictoire. Toutes ces analyses vont d'une certaine façon à démontrer l'implication fonctionnelle des vices dans le système de la croissance. Pourtant, il recule devant les conclusions logiques qui mettraient en cause le système lui-même et réajuste tout dans une optique libérale. En général, les idéalistes s'en tiennent à ce constat paradoxal, en dépit de tout et par une inversion diabolique de ses fins, qui ne peuvent être, comme chacun sait, que bénéfiques, la croissance produit, reproduit, restitue l'inégalité sociale, les privilèges, les déséquilibres, etc. On admettra, comme Galbraith dans l'Affluent Society, qu'au fond, c'est l'augmentation de la production qui tient lieu de redistribution. Ouvrez les guillemets, plus il y en aura, il finira bien par y en avoir assez pour tout le monde. Fermez les guillemets. Or, ces principes qui tiennent de la physique des fluides ne sont jamais vrais dans un contexte de relations sociales où ils vont, nous le verrons plus loin, précisément à l'inverse. On en tire d'ailleurs un argument à l'usage des sous-privilégiés. même ceux qui sont en bas de l'échelle, ont plus à gagner d'un accroissement accéléré de la production que de toute autre forme de redistribution. Mais tout ceci est spécieux, car si la croissance inaugure l'ascension de tous à un revenu et à un volume de biens supérieur dans l'absolu, ce qui est sociologiquement caractéristique, c'est le processus de distorsion qui s'institue au sein même de la croissance. C'est le taux de distorsion qui subtilement structure et donne son vrai sens à la croissance. Il est tellement plus simple de s'en tenir à la disparition spectaculaire de certaines pénuries extrêmes ou de certaines inégalités secondaires, de juger de l'abondance sur des chiffres et des quantités globales, sur des croissances absolues et des produits nationaux bruts, que d'analyser en termes de structure. Structurellement, c'est le taux de distorsion qui est significatif. C'est lui qui marque internationalement la distance croissante entre pays sous-développés et nations surdéveloppées. Mais au sein de celle-ci, aussi bien la perte de vitesse des bas salaires sur les revenus plus élevés, des secteurs qui fléchissent sur les secteurs de pointe, du monde rural sur le monde urbain et industriel, etc. L'inflation chronique permet de masquer cette paupérisation relative en déplaçant toutes les valeurs nominales vers le haut, alors que le calcul des fonctions et des moyennes relatives ferait apparaître des régressions partielles au bas du tableau et, de toute façon, une distorsion structurelle sur toute l'étendue du tableau. Il ne sert à rien d'alléguer toujours le caractère provisoire ou conjoncturel de cette distorsion lorsqu'on voit le système s'y maintenir de par sa propre logique et y assurer sa finalité. Tout au plus peut-on admettre qu'il se stabilise autour d'un certain taux de distorsion, c'est-à-dire incluant, quel que soit le volume absolu des richesses, une inégalité systématique. La seule façon, en effet, de sortir de l'impasse idéaliste, de ce constat morose des dysfonctions, c'est d'admettre qu'il y a ici à l'œuvre une logique systématique. C'est aussi la seule façon de dépasser la fausse problématique de l'abondance et de la rareté qui, comme la question de confiance en milieu parlementaire, a pour fonction d'asphyxier tous les problèmes. En fait, il n'y a pas, et il n'y a jamais eu, de société d'abondance ni de société de pénurie, puisque toute société, quelle qu'elle soit, et quel que soit le volume des biens produits ou de la richesse disponible, s'articule à la fois sur un excédent structurel et sur une pénurie structurelle. L'excédent peut être la part de Dieu, la part du sacrifice, la dépense somptuaire, la plus-value, le profit économique ou les budgets de prestige. De toute façon, c'est ce prélèvement du luxe qui définit la richesse d'une société en même temps que sa structure sociale, puisqu'il est toujours l'apanage d'une minorité privilégiée et qu'il a pour fonction précisément de reproduire le privilège de caste ou de classe. Sur le plan sociologique, il n'y a pas d'équilibre. L'équilibre est le fantasme idéal des économistes, que contredit sinon la logique même de l'état de société, du moins l'organisation sociale partout repérable. Toute société produit de la différenciation, de la discrimination sociale, et cette organisation structurelle se fonde, entre autres, sur l'utilisation et la distribution des richesses. Le fait qu'une société entre dans une phase de croissance, comme nos sociétés industrielles, ne change rien à ce processus, au contraire. D'une certaine façon, le système capitaliste, et productiviste en général, a mis le comble à cette dénivellation fonctionnelle, à ce déséquilibre, en le rationalisant et en le généralisant à tous les niveaux. Les spirales de la croissance s'ordonnent autour du même axe structurel. À partir du moment où l'on abandonne la fiction du PNB comme critère de l'abondance, il faut constater que la croissance ne nous éloigne ni ne nous rapproche de l'abondance. Elle est logiquement séparée par toute la structure sociale qui est ici l'instance déterminante. Un certain type de rapports sociaux et de contradictions sociales, un certain type d'inégalité qui se perpétuait jadis dans l'immobilisme, se reproduit aujourd'hui et à travers la croissance. Ceci impose une autre perspective sur la croissance. Nous ne dirons plus avec les euphoristes « la croissance produit de l'abondance, donc de l'égalité ». Nous ne prendrons pas non plus la vue extrême inverse « la croissance est productrice d'inégalité ». Renversant le faux problème « la croissance est-elle égalitaire ou inégalitaire », nous dirons que c'est la croissance elle-même qui est fonction de l'inégalité. C'est la nécessité pour l'ordre social inégalitaire, pour la structure sociale de privilège, de se maintenir, qui produit et reproduit la croissance comme son élément stratégique. Autrement dit encore, l'autonomie interne de la croissance, technologique, économique, est faible et seconde par rapport à cette détermination par la structure sociale. La société de croissance résulte, dans son ensemble, d'un compromis entre des principes démocratiques égalitaires, qui peuvent s'y soutenir du mythe de l'abondance et du bien-être, et l'impératif fondamental de maintien d'un ordre de privilèges et de domination. Ce n'est pas le progrès technologique qui la fonde. Cette vision mécaniste est celle même qui alimente la vision naïve de l'abondance future. C'est au contraire cette double détermination contradictoire qui fonde la possibilité du progrès technologique. C'est elle aussi qui commande l'émergence, dans nos sociétés contemporaines, de certains processus égalitaires, démocratiques, progressistes. Mais il faut bien voir qu'ils y émergent à dose homéopathique, distillés par le système en fonction de sa survie. L'égalité même, dans ce processus systématique, est une fonction, seconde et dérivée, de l'inégalité. Tout comme la croissance. L'égalisation tendancielle des revenus, par exemple, car c'est surtout à ce niveau que se joue le mythe égalitaire, est nécessaire à l'intériorisation des processus de croissance, laquelle, nous avons vu, est tactiquement reconductrice de l'ordre social, lequel est une structure de privilèges et de pouvoir de classe. Tout ceci désigne les quelques symptômes de démocratisation comme alibi nécessaire à la viabilité du système. Au surplus, ces quelques symptômes sont eux-mêmes superficiels et suspects. Galbraith se réjouit de la diminution de l'inégalité comme problème économique, et donc social, non qu'elle ait disparu, dit-il, mais parce que la richesse n'apporte plus les avantages fondamentaux, pouvoir, jouissance, prestige, distinction, qu'elle impliquait jadis. Fini le pouvoir des propriétaires et des actionnaires. Ce sont les experts et les techniciens organisés qui l'exercent, voire les intellectuels et les savants. Fini la consommation ostentatoire des grands capitalistes et autres Citizen Kane, fini les grandes fortunes, les riches se font presque une loi de sous-consommer. Bref, sans le vouloir, Galbraith montre bien que, s'il y a eu de l'égalité, si pauvreté et richesse ne sont plus un problème, c'est précisément qu'elle n'a plus d'importance réelle. Ce n'est pas là que ça se passe. Les critères de la valeur sont ailleurs. La discrimination sociale, le pouvoir, etc., qui reste l'essentiel, se sont transférés ailleurs que dans le revenu ou la richesse pure et simple. Il importe peu, dans ces conditions, que tous les revenus, à la limite, soient égaux, et même le système peut se payer le luxe de faire un large pas dans ce sens, car ce n'est plus là la détermination fondamentale de l'inégalité. Le savoir, la culture, les structures de responsabilité et de décision, le pouvoir. Tous ces critères, encore que largement complices de la richesse et du niveau de revenu, ont largement relégué ceci, ainsi que les signes extérieurs du statut, dans l'ordre des déterminants sociaux de la valeur, dans la hiérarchie des critères de puissance. Galbraith, par exemple, confond la sous-consommation des riches avec l'abolition des critères de prestige fondés sur l'argent. Certes, l'homme riche qui conduit sa deux chevaux n'éblouit plus. C'est plus subtil. Il se surdifférencie. Il se surdistingue par la manière de consommer, par le style. Il maintient absolument son privilège en passant de l'ostentation à la discrétion surostentatoire, en passant de l'ostentation quantitative à la distinction de l'argent à la culture. En fait, même cette thèse que l'on pourrait appeler celle de la baisse tendancielle du taux de privilège économique est sujette à caution. Car l'argent toujours se transmute en privilège hiérarchique, en privilège de pouvoir et de culture. On peut admettre qu'il n'est plus décisif, l'a-t-il jamais été. Ce que ne voient pas Galbraith et les autres, c'est que le fait que l'inégalité économique ne fasse plus problème constitue en soi un problème. Constatant un peu trop vite l'atténuation de la loi des reins dans le champ économique, ils s'en tiennent là sans chercher à faire une théorie plus large de cette loi des reins, ni à voir comment elle se déplace du champ des revenus et de la consommation, désormais béni par l'abondance, vers un champ social beaucoup plus général ou plus subtil. Elle se fait plus irréversible. Système industriel et pauvreté. Lorsqu'on reprend ainsi objectivement, au-delà de la liturgie de la croissance et de l'abondance, le problème du système industriel tout entier, on voit que deux options fondamentales résument toutes les positions possibles. Premièrement, l'option Galbraith, et de tant d'autres. Idéaliste magique, elle consiste à conjurer à l'extérieur du système, comme déplorable certes, mais accidentel, résiduel et corrigible à terme, tous les phénomènes négatifs. Dysfonction, nuisance, pauvreté, et à préserver ainsi l'orbite enchantée de la croissance. Deuxièmement, considérer que le système vit de déséquilibres et de pénuries structurelles, que sa logique, et ceci non pas conjoncturellement, mais structurellement, est totalement ambivalente. Le système ne se soutient que de produire la richesse et la pauvreté. Que de produire autant de dissatisfaction que de satisfaction, autant de nuisances que de progrès. Sa seule logique est de survivre, et sa stratégie dans ce sens est de maintenir la société humaine en porte-à-faux, en déficit perpétuel. On sait que le système s'est traditionnellement et puissamment aidé de la guerre pour survivre et ressusciter. Aujourd'hui, les mécanismes et les fonctions de la guerre sont intégrés au système économique et aux mécanismes de la vie quotidienne. Si l'on admet ce paradoxe structurel de la croissance, d'où résultent les contradictions et les paradoxes de l'abondance, il est naïf et mystifiant de confondre avec les pauvres, les 20% de sous-privilégiés et de laissés pour compte, les processus logiques de sous-développement social. Ceux-ci ne sont pas localisables dans les personnes réelles, dans des lieux réels, dans des groupes réels. Ils ne sont donc pas non plus exorcisables à coups de milliards de dollars dont on arrose les basses classes, à coups de redistribution massive pour chasser la pauvreté et égaliser les chances, en orchestrant cela comme la nouvelle frontière, idéal social à faire pleurer les foules. Parfois, il faut reconnaître que les Great Societies y croient eux-mêmes, leur désarroi devant l'échec de leurs efforts acharnés et généreux n'en est que plus comique. Si la pauvreté, si les nuisances sont irréductibles, c'est qu'elles sont partout ailleurs que dans les quartiers pauvres, non pas dans les slums ou les bidonvilles, mais dans la structure socio-économique. Mais c'est justement là ce qu'il faut cacher, ce qui ne doit pas être dit. Pour masquer cela, des milliards de dollars ne sont pas de trop. Ainsi, de lourdes dépenses médicales et pharmaceutiques peuvent être nécessaires pour ne pas se dire que le mal est ailleurs, d'ordre psychique par exemple, processus bien connu de mes connaissances. Une société comme un individu peut ainsi se ruiner pour échapper à l'analyse. Il est vrai qu'ici, l'analyse serait mortelle pour le système lui-même. Ce n'est donc pas payer trop cher que de sacrifier des milliards inutiles dans la lutte contre ce qui n'est que le fantôme visible de la pauvreté, si c'est sauvé par là même le mythe de la croissance. Il faut aller plus loin encore, et reconnaître que cette pauvreté réelle est un mythe dont s'exalte le mythe de la croissance, feignant de s'acharner contre elle et la ressuscitant malgré lui selon ses finalités secrètes. Cela dit, il ne faudrait pas croire que c'est parce qu'ils sont délibérément sanguinaires et odieux que les systèmes industriels ou capitalistes ressuscitent continuellement la pauvreté ou s'identifient à la course aux armements. L'analyse moralisante, à laquelle échappent ni les libéraux ni les marxistes, est toujours une erreur. Si les systèmes pouvaient s'équilibrer ou survivre sur d'autres bases que le chômage, le sous-développement et les dépenses militaires, ils le feraient. Il le fait à l'occasion, lorsqu'il peut sceller sa puissance grâce à des effets sociaux bénéfiques, grâce à l'abondance. Il n'y manque pas. Il n'est pas a priori contre les retombées sociales du progrès. Il fait du bien-être des citoyens et de la force nucléaire, indifféremment et en même temps, son objectif. C'est qu'au fond, les deux lui sont égaux comme contenu, et que sa finalité est ailleurs. Simplement, au niveau stratégique, il se trouve que les dépenses militaires, par exemple, sont plus sûres, plus contrôlables, plus efficaces pour la survie et la finalité d'ensemble du système que l'éducation, l'automobile plus que l'hôpital, la télévision en couleur plus que les terrains de jeu, etc. Mais cette discrimination négative ne porte pas sur les services collectifs en tant que tels. C'est bien plus grave. Le système ne connaît que les conditions de sa survie. Il ignore les contenus sociaux et individuels. Cela doit nous prévenir contre quelques illusions, typiquement social-réformistes, celle de croire changer le système en modifiant ses contenus, transférer le budget de dépenses militaires sur l'éducation, etc. Le paradoxe est d'ailleurs que toutes ces revendications sociales sont lentement, mais sûrement, assumées et réalisées par le système lui-même, échappant ainsi à ceux qui en font une plateforme politique. Consommation, information, communication, culture, abondance, tout cela est aujourd'hui mis en place, découvert et organisé par le système lui-même comme de nouvelles forces productives, pour sa plus grande gloire. Lui aussi se reconvertit relativement d'une structure violente à une structure non violente. Il substitue l'abondance et la consommation à l'exploitation et à la guerre. Mais personne ne lui en saura gré, car il ne change pas pour autant, et n'obéit en cela qu'à ses propres lois. Nouvelle ségrégation. Non seulement l'abondance, mais les nuisances elles aussi sont reprises par la logique sociale. L'emprise du milieu urbain et industriel fait apparaître de nouvelles raretés, l'espace et le temps, l'air pur, la verdure, l'eau, le silence, etc. Certains biens, jadis gratuits et disponibles à profusion, deviennent des biens de luxe accessibles seulement aux privilégiés, cependant que les biens manufacturés ou les services sont offerts en masse. L'homogénéisation relative au niveau des biens de première nécessité se double donc d'un glissement des valeurs et d'une nouvelle hiérarchie des utilités. La distorsion et l'inégalité ne sont pas réduites, elles sont transférées. Les objets de consommation courante deviennent de moins en moins significatifs du rang social, et les revenus eux-mêmes, dans la mesure où les très grandes disparités vont en s'atténuant, perdent de leur valeur comme critère distinctif. Il est possible même que la consommation prise au sens de dépenses, d'achat et de possession d'objets visibles perde peu à peu le rôle éminent qu'elle joue actuellement dans la géométrie variable du statut au profit d'autres critères et d'autres types de conduites. À la limite, elle sera l'apanage de tous lorsqu'elle ne signifiera plus rien. On voit dès maintenant la hiérarchie sociale s'inscrire dans des critères plus subtils, le type de travail et de responsabilité, le niveau d'éducation et de culture, ce peut être une espèce de bien rare que la manière de consommer des biens courants, la participation aux décisions. Le savoir et le pouvoir sont, ou vont devenir, les deux grands biens rares de nos sociétés d'abondance. Mais ces critères abstraits n'interdisent pas de lire dès aujourd'hui une discrimination croissante dans d'autres signes concrets. La ségrégation dans l'habitat n'est pas nouvelle, mais de plus en plus liée à une pénurie savante et à une spéculation chronique, elle tend à devenir décisive, tant par la ségrégation géographique, centre des villes et périphéries, zones résidentielles, ghettos de luxe et banlieues dortoirs, etc., que dans l'espace habitable, intérieur et extérieur du logement, le dédoublement en résidence secondaire, etc. Les objets ont aujourd'hui moins d'importance que l'espace et que le marquage social des espaces. L'habitat constitue peut-être aussi une fonction inverse de celle des autres objets de consommation, fonction homogénéisante des uns, fonction discriminante de l'autre, sous les rapports d'espace et de localisation. Nature, espace, air pur, silence, c'est l'incidence de la recherche de ces biens rares et de leur prix élevé qu'on lit dans les indices différentiels de dépenses entre deux catégories sociales extrêmes. La différence ouvrier-cadre supérieur n'est que de 100 à 135 pour les produits de première nécessité, elle est de 100 à 245 pour l'équipement de l'habitation, de 100 à 305 pour les transports, de 100 à 390 pour les loisirs. Il ne faut pas lire ici une graduation quantitative dans un espace de consommation homogène. Il faut lire à travers les chiffres la discrimination sociale liée à la qualité des biens recherchés. On parle beaucoup de droit à la santé, de droit à l'espace, de droit à la beauté, de droit aux vacances, de droit au savoir, de droit à la culture. Et au fur et à mesure que ces droits nouveaux émergent, naissent simultanément les ministères, de la santé, des loisirs, de la beauté et de l'air, pourquoi pas. Tout ceci qui semble traduire un progrès individuel et collectif général, que viendrait sanctionner le droit à l'institution, a un sens ambigu, et on peut en quelque sorte y lire l'inverse. Il n'y a de droit à l'espace qu'à partir du moment où il n'y a plus d'espace pour tout le monde, et où l'espace et le silence sont le privilège de certains aux dépens des autres. De même qu'il n'y a eu de droit à la propriété qu'à partir du moment où il n'y a plus eu de terre pour tout le monde, il n'y a eu de droit au travail que lorsque le travail est devenu, dans le cadre de la division du travail, une marchandise échangeable, c'est-à-dire n'appartenant plus en propre aux individus. On peut se demander si le droit au loisir ne signale pas de la même façon le passage de l'otium, comme jadis du travail, au stade de la division technique et sociale, et donc, en fait, la fin des loisirs. L'apparition de ces droits sociaux nouveaux, brandis comme slogan, comme affiche démocratique de la société d'abondance, est donc symptomatique en fait du passage des éléments concernés au rang de signes distinctifs et de privilèges de classe ou de caste. Le droit à l'air pur signifie la perte de l'air pur comme bien naturel, son passage au statut de marchandise et sa redistribution sociale inégalitaire. Il ne faut pas prendre pour progrès social objectif l'inscription comme droit dans les tables de la loi, ce qui est progrès du système capitaliste, c'est-à-dire transformation progressive de toutes les valeurs concrètes et naturelles en forme productive, c'est-à-dire en source. Premièrement, de profit économique. Deuxièmement, de privilège social. Une institution de classe. La consommation n'homogénéise pas davantage le corps social que ne le fait l'école pour les chances culturelles. Elle en accuse même la disparité. On est tenté de poser la consommation, la participation croissante aux mêmes biens et aux mêmes produits, matériels et culturels, comme un correctif à la disparité sociale, à la hiérarchie et à la discrimination toujours plus grande du pouvoir et des responsabilités. En fait, l'idéologie de la consommation, comme celle de l'école, joue bien ce rôle, c'est-à-dire la représentation qu'on a d'une égalité totale devant le rasoir électrique ou l'automobile, comme celle qu'on a d'une égalité totale devant l'écriture et la lecture. Bien sûr, aujourd'hui, tout le monde virtuellement sait lire et écrire. Tout le monde a ou aura la même machine à laver et achète les mêmes livres de poche. Mais cette égalité est toute formelle. Portant sur le plus concret, elle est en fait abstraite. Et c'est à l'inverse, sur cette base homogène abstraite, sur cette démocratie abstraite de l'orthographe ou du poste de télévision, que va pouvoir opérer, et d'autant mieux, le véritable système de discrimination. En fait, il n'est même pas vrai que les produits de consommation, les signes de cette institution sociale, instaurent même cette plateforme démocratique primaire. Car en soi et un par un, l'auto, le rasoir, etc., ils n'ont pas de sens. C'est leur constellation, leur configuration, le rapport à ces objets et leur perspective sociale d'ensemble qui seuls ont un sens. Et là, c'est toujours un sens distinctif. Eux-mêmes répercutent dans leur matérialité de signes, leurs différences subtiles, cette détermination structurelle. On ne voit pas d'ailleurs par quel miracle ils en seraient quittes. Ils obéissent, comme l'école, à la même logique sociale que les autres institutions, jusque dans l'image inverse qu'ils en donnent. La consommation est une institution de classe comme l'école. Non seulement il y a inégalité devant les objets au sens économique, l'achat, le choix, la pratique en sont réglés par le pouvoir d'achat, le degré d'instruction lui-même fonction de l'ascendance de classe, etc. Bref, tous n'ont pas les mêmes objets, comme tous n'ont pas les mêmes chances scolaires. Mais plus profondément, il y a discrimination radicale au sens où seuls certains accèdent à une logique autonome, rationnelle, des éléments de l'environnement. Usage fonctionnel, organisation esthétique, accomplissement culturel, ceux-là n'ont pas affaire à des objets et ne consomment pas à proprement parler, les autres étant voués à une économie magique, à la valorisation des objets en tant que tels, et de tout le reste en tant qu'objets, idées, loisirs, savoirs, culture. Cette logique fétichiste est proprement l'idéologie de la consommation. De même, le savoir et la culture ne sont pour ceux qui n'en ont pas la clé, c'est-à-dire le code qui en permet l'usage légitime, rationnel et efficace, qu'une ségrégation culturelle plus aiguë et plus subtile, puisque le savoir et la culture n'apparaissent alors, à leurs yeux et dans l'usage qu'ils en ont, que comme un mana supplémentaire, une réserve de pouvoir magique, au lieu d'être l'inverse, un apprentissage et une formation objective. Une dimension de salut. Par leur nombre, leur redondance, leur superfluité, leur prodigalité de forme, par le jeu de la mode, par tout ce qui excède en eux la fonction pure et simple, les objets ne font encore que simuler l'essence sociale, le statut. Cette grâce de prédestination qui n'est jamais donnée que par la naissance, à quelques-uns, et que la plupart, par destination inverse, ne sauraient jamais atteindre. Cette légitimité héréditaire, qu'elle soit de sang ou de culture, est au fond même du concept de statut, lequel oriente toute la dynamique de la mobilité sociale. Au fond de toutes les aspirations, il y a cette fin idéale d'un statut de naissance, d'un statut de grâce et d'excellence. Il hante également l'environnement d'objets. C'est lui qui suscite ce délire, ce monde forcené de bibelots, de gadgets, de fétiches qui tous cherchent à marquer l'éternité d'une valeur et à faire la preuve d'un salut par les œuvres à défaut d'un salut par la grâce. D'où le prestige très particulier de l'objet ancien, qui est signe d'hérédité, de valeur infuse, de grâce irréversible. C'est une logique de classe qui impose le salut par les objets, qui est un salut par les œuvres, principe démocratique opposé au salut par la grâce et l'élection, principe aristocratique. Or, dans le consensus universel, le salut par la grâce l'emporte toujours en valeur sur le salut par les œuvres. C'est un peu ce à quoi on assiste dans les classes inférieures et moyennes, où la preuve par l'objet, le salut par la consommation, dans son processus sans fin de démonstration morale, s'essouffle sans espoir à rejoindre un statut de grâce personnelle, de don et de prédestination qui reste en tout état de cause celui des classes supérieures, lesquelles font la preuve de leur excellence ailleurs, par l'exercice de la culture et du pouvoir. Différenciation et société de croissance. Tout ceci nous renvoie donc, au-delà de la métaphysique des besoins et de l'abondance, à une véritable analyse de la logique sociale de la consommation. Cette logique n'est pas du tout celle de l'appropriation individuelle de la valeur d'usage des biens et des services, logique de l'inégale profusion, les uns ayant droit au miracle, les autres aux seules retombées du miracle. Ce n'est pas une logique de la satisfaction, c'est une logique de la production et de la manipulation des signifiants sociaux. Le procès de consommation peut être analysé dans cette perspective sous deux aspects fondamentaux. Premièrement, comme procès de signification et de communication, fondé sur un code où les pratiques de consommation viennent s'inscrire et prendre leur sens. La consommation est ici un système d'échange et l'équivalent d'un langage. C'est l'analyse structurale qui peut l'aborder à ce niveau. Nous y reviendrons plus loin. Deuxièmement, comme procès de classification et de différenciation sociale, où les objets signes s'ordonnent cette fois non seulement comme différence significative dans un code, mais comme valeur statutaire dans une hiérarchie. Ici, la consommation peut être l'objet d'une analyse stratégique qui détermine son poids spécifique dans la distribution des valeurs statutaires en implication avec d'autres signifiants sociaux, savoir, pouvoir, culture, etc. Le principe de l'analyse reste celui-ci. On ne consomme jamais l'objet en soi, dans sa valeur d'usage. On manipule toujours les objets, au sens le plus large, comme signe qui vous distingue soit en vous affiliant à votre propre groupe pris comme référence idéale, soit en vous démarquant de votre groupe par référence à un groupe de statut supérieur. Pourtant, ce procès de différenciation statutaire, qui est un procès social fondamental par où chacun s'inscrit en société, a un aspect vécu et un aspect structurel, l'un conscient, l'autre inconscient. L'un éthique, c'est la morale du standing, de la concurrence statutaire, de l'échelle de prestige, l'autre structurel. C'est l'inscription permanente dans un code dont les règles, les contraintes de signification, comme celles de la langue, échappent pour l'essentiel aux individus. Le consommateur vit comme liberté, comme aspiration, comme choix ses conduites distinctives. Il ne les vit pas comme contraintes de différenciation et d'obéissance à un code. Se différencier, c'est toujours du même coup instaurer l'ordre total des différences qui est d'emblée le fait de la société totale et dépasse inéluctablement l'individu. Chaque individu, marquant des points dans l'ordre des différences, restitue celui-ci par cela même et donc se condamne lui-même à n'y être jamais inscrit que relativement. Chaque individu vit ses gains sociaux différentiels comme des gains absolus. Il ne vit pas la contrainte structurale qui fait que les positions s'échangent et que l'ordre des différences reste. C'est pourtant cette contrainte de la relativité qui est déterminante, dans la mesure où c'est par référence à elle que l'inscription différentielle n'aura jamais de cesse. Elle seule peut rendre compte du caractère fondamental de la consommation, son caractère illimité, dimension inexplicable par le biais d'autres théories des besoins et de la satisfaction, puisque calculée en bilan calorique, énergétique ou en valeur d'usage, très vite un seuil de saturation devrait être atteint. Or, c'est bien évidemment à l'inverse que nous assistons, à l'accélération des cadences consommatrices, à un forcing de la demande qui fait que l'écart même se creuse entre une productivité gigantesque et une consommativité plus affolée encore. L'abondance, comprise comme leur équation harmonieuse, recule indéfiniment. Ceci ne peut s'expliquer que si on abandonne radicalement la logique individuelle de la satisfaction pour rendre à la logique sociale de la différenciation son importance décisive. Et distinguer cette logique de la différence des simples déterminations conscientes de prestige, car celles-ci sont encore des satisfactions. La consommation de différences positives alors que le signe distinctif est toujours à la fois différence positive et négative. C'est ce qui fait qu'il renvoie indéfiniment à d'autres signes et le consommateur à une insatisfaction définitive. L'effarement des économistes et autres penseurs idéalistes du bien-être devant l'évidence de l'impossibilité pour le système de la consommation de se stabiliser, devant son emballement et sa fuite en avant illimitée, est toujours très instructif. Il est caractéristique de leur vision en termes d'accroissement de biens et de revenus, et jamais en termes de relations et de différenciation par les signes. Ainsi, Gervasi. La croissance s'accompagne de l'introduction constante de nouveaux produits au fur et à mesure que la hausse des revenus étend les possibilités de la consommation. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. La tendance ascendante des revenus apporte non seulement un courant de biens nouveaux, mais aussi une prolifération de qualité du même bien. Fermez les guillemets. Pourquoi ? Quel rapport logique ? Ouvrez les guillemets. La hausse des revenus mène à l'amélioration progressive de la qualité. Fermez les guillemets. Toujours la même thèse implicite. Plus on gagne, plus on en veut et du meilleur. Ceci valable indistinctement pour tous et individuellement, chacun visant un optimum rationnel de bien-être. Très généralement d'ailleurs, le champ de la consommation est pour eux un champ homogène, traversé au plus par quelques disparités de revenus ou disparités culturelles, qui se répartit statistiquement autour d'un type moyen, le consommateur. Vision induite par la représentation de la société américaine comme d'une immense classe moyenne et sur laquelle s'aligne en gros la sociologie européenne. Le champ de la consommation est au contraire un champ social structuré où non seulement les biens, mais les besoins eux-mêmes, comme les divers traits de culture, transitent d'un groupe modèle, d'une élite directrice vers les autres catégories sociales au fur et à mesure de la promotion relative de celle-ci. Il n'y a pas de masse des consommateurs, et nul besoin n'émerge spontanément du consommateur de base. Il n'a de chance d'apparaître dans le standard package des besoins que s'il est déjà passé par le select package. La filière des besoins, comme celle des objets et des biens, est donc d'abord socialement sélective. Les besoins et les satisfactions flirtent vers le bas en vertu d'un principe absolu, d'une espèce d'impératif social catégorique qui est le maintien de la distance et de la différenciation par les signes. C'est cette loi qui conditionne toute l'innovation d'objets comme matériel social distinctif. C'est cette loi de renouvellement du matériel distinctif du haut vers le bas qui traverse tout l'univers de la consommation et non à l'inverse, de bas en haut, vers l'homogénéité totale, l'ascendance des revenus. Nul produit n'a de chance d'être sérialisé, nul besoin n'a de chance d'être satisfait massivement que s'il ne fait déjà plus partie du modèle supérieur et y a été remplacé par quelque autre bien ou besoin distinctif, tel que la distance soit préservée. La divulgation ne se fait qu'en fonction de l'innovation sélective au sommet. Et celle-ci, bien sûr, se fait en fonction du taux décroissant de rentabilité distinctive des objets et des biens dans une société de croissance. Là encore, certaines prénotions sont à revoir. La divulgation a sa mécanique propre, les mass médias, etc. Mais elle n'a pas de logique propre du contenu. C'est au sommet, et pour réagir à la déperdition des signes distinctifs antérieurs, que se fait l'innovation, afin de restituer la distance sociale. Si bien que les besoins des classes moyennes et inférieures sont toujours, comme les objets, passibles d'un retard, d'un décalage dans le temps, et d'un décalage culturel par rapport à ceux des classes supérieures. Ce n'est pas l'une des moindres formes de la ségrégation en société démocratique. Une des contradictions de la croissance est qu'elle produit en même temps des biens et des besoins, mais qu'elle ne les produit pas au même rythme. Le rythme de production des biens est en fonction de la productivité industrielle et économique, le rythme de la production des besoins est en fonction de la logique de la différenciation sociale. Or, la mobilité ascendante et irréversible des besoins libérés par la croissance, c'est-à-dire produits par le système industriel selon sa contrainte logique interne, a sa dynamique propre, autre que celle de la production des biens matériels et culturels destinés soi-disant à les satisfaire. À partir d'un certain seuil de socialisation urbaine, de concurrence statutaire et de take-off psychologique, l'aspiration est irréversible et illimitée et croît selon le rythme d'une socio-différenciation accélérée, d'une interrelativité généralisée. D'où les problèmes spécifiques liés à cette dynamique différentielle de la consommation. si les aspirations étaient simplement concurrentes à la productivité, subordonnées à elle, pas de problème. En fait, elles constituent, de par leur logique propre, qui est une logique de la différence, une variable incontrôlable. Non pas une variable de plus dans le calcul économique, une variable socio-culturelle de situation ou de contexte, mais une variable structurelle décisive qui ordonne toutes les autres. Il faut certes admettre, avec les diverses enquêtes faites sur ce point, en particulier sur les besoins culturels, une certaine inertie sociologique des besoins, c'est-à-dire une certaine indexation des besoins et des aspirations sur la situation sociale acquise, et non pas du tout, comme le pensent les théoriciens du conditionnement, sur les biens offerts. On retrouve à ce niveau les mêmes processus qui sont ceux de la mobilité sociale. Un certain réalisme fait que les gens, dans telle ou telle situation sociale, n'aspirent jamais beaucoup au-delà de ce à quoi ils peuvent raisonnablement aspirer. En aspirant un peu au-delà de leur chance objective, ils intériorisent les normes officielles d'une société de croissance. En aspirant peu au-delà, ils intériorisent les normes réelles d'expansion de cette société, malthusienne dans son expansion même, qui sont toujours en deçà des possibles. Moins on a, moins on aspire, au moins jusqu'à un certain seuil où l'irréalisme total compense le dénuement. Mais le processus même de production des aspirations est inégalitaire, puisque la résignation en bas de l'échelle, l'aspiration plus libre en haut viennent redoubler les possibilités objectives de satisfaction. Pourtant, là encore, le problème est à saisir dans son ensemble. Il est fort possible que les aspirations proprement consommatives, matérielles et culturelles, qui, elles, relèvent un taux d'élasticité beaucoup plus grand que les aspirations professionnelles ou culturelles, compensent en fait les défaillances graves pour certaines classes en matière de mobilité sociale. La compulsion de consommation compenserait le non-accomplissement dans l'échelle sociale verticale. En même temps que l'expression d'une exigence statutaire, l'aspiration surconsommative, des basses classes en particulier, serait l'expression de l'échec vécu de cette exigence. Il reste que les besoins et les aspirations, activés par la différenciation sociale et l'exigence de statut, ont tendance, en société de croissance, à aller toujours un peu plus vite que les biens disponibles ou les chances objectives. Et d'ailleurs, le système industriel lui-même, qui suppose la croissance des besoins, suppose aussi un excédent perpétuel des besoins par rapport à l'offre des biens, tout comme il spécule sur un volant de chômage pour maximiser le profit qu'il tire de la force de travail. On retrouve ici l'analogie profonde entre besoins et force productive. Spéculant sur cette distorsion entre biens et besoins, le système cependant touche à une contradiction. C'est que la croissance non seulement implique la croissance des besoins, et un certain déséquilibre entre biens et besoins, mais encore la croissance de ce déséquilibre même entre croissance des besoins et croissance de la productivité. D'où la paupérisation psychologique et l'état de crise latent, chronique, en soi fonctionnellement lié à la croissance, mais qui peut mener à un seuil de rupture, à une contradiction explosive. Confronter la croissance des besoins et la croissance de la production revient à mettre en évidence la variable intermédiaire décisive, qui est la différenciation. C'est donc entre différenciation croissante des produits et différenciation croissante de la demande sociale de prestige que doit s'établir la relation. Or, la première est limitée, la seconde non. Il n'y a pas de limite aux besoins de l'homme en tant qu'être social, c'est-à-dire producteur de sens et relatif aux autres en valeur. L'absorption quantitative de nourriture est limitée, le système digestif est limité, mais le système culturel de la nourriture est, lui, indéfini. Encore est-il un système relativement contingent. La valeur stratégique, en même temps que l'astuce de la publicité, est précisément celle-là. De toucher chacun en fonction des autres, dans ses velléités de prestige social réifié. Jamais elle ne s'adresse à l'homme seul, elle le vise dans sa relation différentielle, et lors même qu'elle semble accrocher ses motivations profondes, elle le fait toujours de façon spectaculaire, c'est-à-dire qu'elle convoque toujours les proches, le groupe, la société tout entière hiérarchisée dans le procès de lecture et d'interprétation, dans le procès de faire-valoir qu'elle instaure. Dans un groupe restreint, les besoins, comme la concurrence, peuvent sans doute se stabiliser. L'escalade des signifiants de statut et du matériel distinctif y est moins forte. On peut voir ceci dans les sociétés traditionnelles ou les micro-groupes. Mais dans une société de concentration industrielle et urbaine, de densité et de promiscuité beaucoup plus grande, comme la nôtre, l'exigence de différenciation croît plus vite encore que la productivité matérielle. Lorsque tout l'univers social s'urbanise, lorsque la communication se fait totale, les besoins croissent selon une asymptote verticale, non par appétit, mais par concurrence. De cette escalade, de cette réaction en chaîne différentielle que sanctionne la dictature totale de la mode, la ville est le lieu géométrique. Or, le processus renforce en retour la concentration urbaine par acculturation rapide des zones rurales ou marginales. Donc, il est irréversible. Toute velléité de l'enrayer est naïve. La densité humaine en soi est fascinante, mais surtout le discours de la ville. C'est la concurrence même. Mobile, désir, rencontre, stimuli, verdict incessant des autres, érotisation continuelle, information, sollicitation publicitaire, tout cela compose une sorte de destin abstrait de participation collective sur un fond réel de concurrence généralisée. De même que la concentration industrielle résulte en une production toujours accrue de biens, de même la concentration urbaine résulte en une surrection illimitée des besoins. Or, si les deux types de concentration sont contemporains, ils ont pourtant, nous l'avons vu, leur dynamique propre et ne coïncident pas dans leurs résultats. La concentration urbaine, donc la différenciation, va plus vite que la productivité. C'est là le fondement de l'aliénation urbaine. Un équilibre névrotique finit cependant par s'établir au bénéfice de l'ordre plus cohérent de la production, la prolifération des besoins venant à refluer sur l'ordre des produits pour s'y intégrer tant bien que mal. Tout ceci définit la société de croissance comme le commentaire d'une société d'abondance. Grâce à cette tension constante entre les besoins concurrentiels et la production, grâce à cette tension pénurique, à cette paupérisation psychologique, l'ordre de production s'arrange pour ne faire surgir et pour ne satisfaire que les besoins qui lui sont adéquats. Dans l'ordre de la croissance, selon cette logique, il n'y a pas, il ne peut y avoir de besoins autonomes. Il n'y a que les besoins de la croissance. Il n'y a pas de place pour les finalités individuelles dans le système. Il n'y a place que pour les finalités du système. Toutes les dysfonctions signalées par Galbraith, Bertrand et Jouvenel, etc., sont logiques. Les voitures et les autoroutes sont un besoin du système. Ceci est à peu près clair, mais aussi bien la formation universitaire de cadres moyens, donc la démocratisation de l'université au même titre que la production automobile. Parce que le système ne produit que pour ses propres besoins, il se retranche d'autant plus systématiquement derrière l'alibi des besoins individuels. D'où l'excroissance gigantesque de la consommation privée sur les services collectifs. Galbraith. Ce n'est pas là un accident. Le culte de la spontanéité individuelle et de la naturalité des besoins est lourd de l'option productiviste. Même les besoins les plus rationnels, instruction, culture, santé, transport, loisirs, coupés de leur signification collective réelle, sont récupérés au même titre que les besoins dérivés de la croissance dans la prospective systématique de cette croissance. D'ailleurs, c'est dans un sens plus profond encore que la société de croissance est le contraire d'une société d'abondance. C'est qu'avant d'être une société de production de biens, elle est une société de production de privilèges. Or, il y a une relation nécessaire, définissable sociologiquement, entre le privilège et la pénurie. Il ne saurait, en quelque société que ce soit, y avoir privilège sans pénurie. Les deux sont structurellement liés. Donc, la croissance, à travers sa logique sociale, se définit paradoxalement par la reproduction d'une pénurie structurelle. Cette pénurie n'a plus le même sens que la pénurie primaire, la rareté des biens. Celle-là pouvait être considérée comme provisoire, et elle est en partie résorbée dans nos sociétés. Mais la pénurie structurelle qui s'y substitue est, elle, définitive, car elle est systématisée comme fonction de relance et stratégie de pouvoir dans la logique même de l'ordre de la croissance. En conclusion, nous dirons qu'il y a de toute façon contradiction logique entre l'hypothèse idéologique de la société de croissance, qui est l'homogénéisation sociale au plus haut niveau, et sa logique sociale concrète, fondée sur une différenciation structurelle, cet ensemble logiquement contradictoire fondant une stratégie totale. Et nous insisterons encore une fois, en dernier lieu, sur cette illusion majeure, sur la mythologie cardinale de cette fausse société d'abondance, l'illusion de la répartition selon le schéma idéaliste des vases communicants. Le flux des biens et des produits ne s'équilibre pas comme le niveau des mers. L'inertie sociale, à l'inverse de l'inertie naturelle, ne mène pas à un état de distorsion, de disparité et de privilèges. La croissance n'est pas la démocratie. La profusion est fonction de discrimination. Comment pourrait-elle en être le correctif ? Le paléolithique ou la première société d'abondance. Il faut abandonner l'idée reçue que nous avons d'une société d'abondance comme d'une société dans laquelle tous les besoins matériels et culturels sont aisément satisfaits, car cette idée fait abstraction de toute logique sociale. Et il faut rejoindre l'idée reprise par Marshall Salins dans son article sur la première société d'abondance, selon laquelle ce sont nos sociétés industrielles et productivistes, au contraire de certaines sociétés primitives, qui sont dominées par la rareté, par l'obsession de rareté caractéristique de l'économie de marché. Plus on produit, plus on souligne, au sein même de la profusion, l'éloignement irrémédiable du terme final que serait l'abondance, défini comme l'équilibre de la production humaine et des finalités humaines. Puisque ce qui est satisfait dans une société de croissance est de plus en plus satisfait au fur et à mesure que croît la productivité, ce sont les besoins mêmes de l'ordre de production et non les besoins de l'homme, sur la méconnaissance desquels repose au contraire tout le système. Il est clair que l'abondance recule indéfiniment. Mieux, elle est irrémédiablement niée au profit du règne organisé de la rareté, la pénurie structurelle. Pour Salins, c'était des chasseurs-collecteurs, tribus nomades primitives d'Australie, du Kalahari, etc., qui connaissaient l'abondance véritable malgré leur absolue pauvreté. Les primitifs n'y possèdent rien en propre. Ils ne sont pas obsédés par leurs objets, qu'ils jettent à mesure pour mieux se déplacer. Pas d'ailleurs de production ni de travail. Ils chassent et cueillent à loisir, pourrait-on dire, et partagent tout entre eux. Leur prodigalité est totale. Ils consomment tout d'emblée, pas de calcul économique, pas de stock. Le chasseur-collecteur n'a rien de l'homo economicus d'invention bourgeoise. Il ne connaît pas les fondements de l'économie politique. Il reste même toujours en deçà des énergies humaines, des ressources naturelles et des possibilités économiques effectives. Il dort beaucoup. Il a confiance, et c'est cela qui marque son système économique, en la richesse des ressources naturelles, alors que notre système est marqué, et de plus en plus avec le perfectionnement technique, par le désespoir face à l'insuffisance des moyens humains, par une angoisse radicale et catastrophique qui est l'effet profond de l'économie de marché et de la concurrence généralisée. L'imprévoyance et la prodigalité collective, caractéristiques des sociétés primitives, sont le signe de l'abondance réelle. Nous n'avons que les signes de l'abondance. Nous traquons, sous un gigantesque appareil de production, les signes de la pauvreté et de la rareté. Mais la pauvreté ne consiste, dit Salins, ni en une faible quantité de biens, ni simplement en un rapport entre des fins et des moyens. Elle est avant tout un rapport entre les hommes. Ce qui fonde la confiance des primitifs et qui fait qu'ils vivent l'abondance dans la fin même, c'est finalement la transparence et la réciprocité des rapports sociaux. C'est le fait qu'aucune monopolisation, quelle qu'elle soit, de la nature, du sol, des instruments ou des produits du travail, ne vient bloquer les échanges et instituer la rareté. Pas d'accumulation qui est toujours la source du pouvoir. Dans l'économie du don et de l'échange symbolique, une quantité faible est toujours finie de bien, suffit à créer une richesse générale, puisqu'il passe constamment des uns aux autres. La richesse n'est pas fondée dans les biens, mais dans l'échange concret entre les personnes. Elle est donc illimitée, puisque le cycle de l'échange est sans fin, même entre un nombre limité d'individus, chaque moment du cycle d'échange ajoutant à la valeur de l'objet échangé. C'est cette dialectique concrète et rationnelle de la richesse que nous retrouvons inversée, comme dialectique de la pénurie et du besoin illimité, dans le processus de concurrence et de différenciation caractéristique de nos sociétés civilisées et industrielles. Là où chaque relation dans l'échange primitif ajoute à la richesse sociale, chaque relation sociale dans nos sociétés différentielles ajoute au manque individuel, puisque toute chose possédée est relativisée par rapport aux autres. Dans l'échange primitif, elle est valorisée par la relation même avec les autres. Il n'est donc pas paradoxal de soutenir que dans nos sociétés affluentes, l'abondance est perdue, et qu'elle ne sera pas restituée par un surcroît de productivité à perte de vue, par la libération de nouvelles forces productives. Puisque la définition structurelle de l'abondance et de la richesse est dans l'organisation sociale, seule une révolution de l'organisation sociale des rapports sociaux pourrait l'inaugurer. Reviendrons-nous un jour, au-delà de l'économie du marché, à la prodigalité ? Au lieu de la prodigalité, nous avons la consommation. La consommation forcée à perpétuité, sœur jumelle de la rareté. C'est la logique sociale qui a fait connaître aux primitifs la première et la seule société d'abondance. C'est notre logique sociale qui nous condamne à une pénurie luxueuse et spectaculaire.